Tristan Hertig.
Le musicien britannique Liam Payne, ancien membre du boys band One Direction, est décédé hier à l'âge de 31 ans après avoir chuté du troisième étage d'un hôtel de Buenos Aires, a annoncé la police. Liam James Payne est décédé aujourd'hui après avoir chuté du troisième étage d'un hôtel à Palermo, un quartier de la capitale argentine, ont indiqué les forces de l'ordre dans un communiqué. La police a répondu à un appel au 911, le numéro d'urgence, signalant un homme agressif qui pourrait avoir été sous l'influence de drogue ou de l'alcool, poursuit le communiqué. Quelques minutes après l'annonce de la mort du chanteur britannique, de nombreux fans et curieux se sont rassemblés en silence devant la porte de l'hôtel Casasour, où la mort a été constatée sous la surveillance d'une douzaine de policiers. Kamala Harris a promis hier que sa présidence ne serait pas une continuation de celle de Joe Biden lors d'une interview tendue sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs américains. Comme chaque nouveau dirigeant qui prend ses fonctions, j'apporterai mon vécu, mes expériences professionnelles et des idées nouvelles, a affirmé la candidate démocrate à 20 jours de l'élection présidentielle américaine. La vice-présidente, qui a remplacé Joe Biden mi-juillet dans son duel face à Donald Trump, fait face à un délicat exercice d'équilibriste, bien obligé d'imprimer sa propre marque sur la campagne sans pour autant renier le mandat du dirigeant octogénaire. Une coalition d'ONG britanniques dont Oxfam et Action contre la faim lance aujourd'hui un appel au don national urgent afin d'apporter l'aide humanitaire nécessaire à Gaza, au Liban ainsi qu'en Cisjordanie. Durant l'année écoulée, le conflit au Proche-Orient a détruit des vies à travers la région et des millions de personnes ont fui leurs maisons à la recherche de sécurité et ont urgemment besoin de nourriture, d'abri et de soins médicaux, écrivent dans un communiqué ces 15 ONG. L'individu soupçonné du meurtre d'une jeune étudiante à Paris mi-septembre et arrêté à Genève refuse de rejoindre la France pour être entendu, a appris la RTS. Il l'a indiqué hier à la justice genevoise lors d'une audience devant le ministère public. L'Office fédéral de la justice devra maintenant statuer. Et la météo, aujourd'hui un temps généralement assez ensoleillé et sec, même si quelques passages nuageux parfois importants sont attendus dans l'ouest du pays, notamment le long du Jura et sur les régions de plaine avoisinantes, des nuages qui pourraient s'accompagner de brèves précipitations. Le mercure en plaine de 14 degrés à 18 au plus haut. Demain, un ciel changeant qui alternera entre précipitations et éclaircies, notamment en Valais. Une limite plus neige qui s'abaissera de 2800 à 2600 mètres. Les températures sur le plateau de 12 au minimum à 17 au plus haut. Enfin, samedi, une lente amélioration probable avec le passage à un temps sec et en partie ensoleillé à partir de l'ouest. Il fera au maximum 16 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. La première pour accompagner votre nuit.
Drôle d'époque. Émilie Gasque, Pascaline Sordet. Et nous sommes avec une kinésiologue, Mireille Durig-Jacquier, qui a aussi écrit sur la gémilité. Gémilité incarnée, gémilité symbolique, gémilité perdue. Je voulais vous demander, Mireille Durig-Jacquier, est-ce que vous pensez, puisque vous avez parlé même de perte de fœtus, de jumeaux, en fait, que les mères pourraient pressentir, en fait, auraient la conviction d'avoir perdu un fœtus sans que ça soit visible ou confirmé, ou en tout cas qu'elles aient ce sentiment et ce doute. Est-ce que la société reconnaît suffisamment cette complexité du deuil gémellaire et en particulier quand la perte survient avant la naissance?
Oui, de plus en plus maintenant, ces histoires de jumeaux perdus, c'est vraiment reconnu. Peut-être pas par le monde médical comme ça, mais en tout cas, les femmes, elles ont la possibilité d'aller se faire accompagner, d'être entendues dans leur sensation, dans leur ressenti, dans leur intuition qu'il y avait deux enfants. Et elles le découvrent au travers de leur enfant, de l'enfant, ce qu'on appelle du jumeau survivant.
Parce que comment est-ce qu'on découvrait cela?
L'enfant, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, sait si on lui pose la question, est-ce que tu étais tout seul dans le monde de maman ou vous étiez deux, il saura dire. Et puis, il va manifester des choses. Et moi, quand je leur parle à ces enfants, il y a des fois des problèmes de mutisme ou des problèmes de... Ils s'arrachent les cheveux. Quand j'émets cette hypothèse sur la base d'un, je sais pas, d'un arbre généalogique où je vois qu'il y a des indices peut-être de gémellité ou que je vois que la mère, elle dit, j'ai peut-être perdu un petit peu de sang, mais c'était rien du tout. Je vois quand je raconte à l'enfant, dès qu'on est juste, je dis, peut-être qu'il y a eu un jumeau, peut-être que vous étiez deux, quel que soit l'âge de l'enfant, il va...
Ça fait un déclic.
Ça fait un déclic et l'enfant se sent reconnu.
Ce que vous dites, c'est aussi l'importance de raconter.
Tout à fait.
Donc de dire, même si, par exemple, la femme le sait parce que, voilà, peut-être la perte est survenue un petit peu plus tard dans la grossesse, et puis on sait que, voilà, il y a un des jumeaux qui ne se développe pas. Ce que vous dites, c'est qu'il est important de le dire à l'enfant.
Complètement.
Même si c'est bien avant, ça naît, c'est quelque part avant sa venue au monde.
C'est avant sa venue au monde, mais un embryon, un fœtus qui s'arrête de vivre en vie intra-utérine, ça va laisser des traces énergétiques dans le liquide amniotique. Donc l'enfant qui va naître va se souvenir de ça, même si c'est pas facile à faire revenir à la conscience, il s'en souvient, sa mémoire cellulaire s'en souvient.
Qu'est-ce que ça veut dire des traces énergétiques dans le liquide
amniotique ? Ça veut dire que lui, il va savoir, l'enfant il sait qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'était pas tout seul. Donc la mère, elle va devoir, effectivement, si elle sait qu'il y a eu une grossesse gémellaire et qu'il y a un enfant qui n'est plus là, devoir annoncer à son enfant pour le déculpabiliser, lui dire, voilà, vous avez chacun eu votre destin, vous étiez deux au début de la grossesse, on a vu ça en échographie, puis au bout d'un moment, on a vu que le deuxième cœur ne battait plus, par exemple. Pour déculpabiliser l'enfant qui vient à la vie et lui dire, c'est pas ton histoire, ça fait partie de ton histoire puisque t'es jumeau avec celui-là. Donc celui qui ne vient pas à la vie, on va lui faire prendre la place, première place. Et le jumeau survivant va rester en place numéro 2. Il va falloir dans le comptage des places de fratrie vraiment être très au clair. Par exemple, pour ma sœur aînée, si je dis comme ça, c'est ma sœur aînée, je vis en deuxième. D'ailleurs, je voulais écrire comme ça. J'ai une sœur aînée, je vis en deuxième et j'ai encore deux sœurs après. Mais en fait, dans la réalité, la jumelle qui était avec ma sœur aînée, c'est la première. Ma sœur aînée, celle qui est la plus âgée, prend la place numéro 2 et moi, je prends la place numéro 3.
Donc, ça bouleverse tout.
Ça bouleverse tout. Et tant qu'on n'est pas vraiment dans cette bonne place de fratrie, quand on n'a pas reconnu ça, c'est comme si on n'est pas dans ses baskets, quoi.
Ça, vous en avez parlé avec votre sœur, c'est dans votre sororie, du coup, si on utilise ce mot. Cette discussion sur les places, vos autres sœurs reconnaissent effectivement la place de cet enfant qui n'est pas né.
Oui, on en a parlé. Et maintenant qu'elles ont aussi mon livre, en tout cas ma sœur aînée, oui, c'est celle qui est le plus proche et peut-être la plus sensible à cette thématique. Surtout qu'on voit au travers de ces trois enfants des traces d'une gémellité symbolique au travers de prénoms, de dates de naissance, comme un souvenir de ça. Un souvenir de ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Par exemple, j'ai un neveu qui est donc le fils de ma sœur aînée qui avait cette jumelle perdue. Il est né le 3 juillet, et le 3 juillet, c'est le jour de la Saint Thomas. Saint Thomas, c'est le patron des jumeaux. Alors moi, je vais regarder dans cette gémellité symbolique, si on est né autour du 28 janvier, autre Saint Thomas, autour du 3 juillet, ou si on s'appelle Thomas, ou s'il y a certains prénoms qui appellent à la gémellité, les prénoms qui ont des mi, par exemple, ils appellent quand même un peu à la gémellité, puisqu'il y a une histoire de moitié. Et donc, dans l'histoire de ma sœur, sa première fille s'appelle Isaline, donc il y a le lien, Line à la fin, il y a quand même le lien qui rappelle le lien. Sa deuxième fille est née sur une date presque double, hein, une date double ce serait le 6 du 6, le 12 du 12, qui mettent comme une empreinte gémellaire, une empreinte du double, et son fils est né sur la Saint-Thomas.
Alors, j'aime faire l'avocate de la rationalité. Est-ce que on trouve pas les signes qu'on a envie de trouver ?
Pour se raconter l'histoire qui nous arrange.
Ou qui nous fait du bien.
Oui, bien sûr. On peut. Alors, ça veut juste dire que, par exemple, dans l'histoire de ma sœur et de ses enfants, il y a un aspect symbolique. Ça veut pas dire que c'est réel, hein. Ça veut pas dire que ces trois enfants ont eu des jumeaux perdus. Pas du tout. mais il y a un aspect symbolique, il y a comme une coloration.
Voilà, c'est tout.
Et qui peut être très amusante à regarder, comme on se tirerait c'est... les cartes.
Oui, tout à fait. C'est très amusant, effectivement, à regarder comment ça laisse des traces à un autre niveau.
Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux familles qui sont confrontées à ce type de situation pour mieux comprendre et gérer les émotions de leurs enfants, jumeaux survivants ou non, jumeaux tout court, jumeaux symboliques, jumeaux que sais-je?
Alors, dans le cas de la gémellité perdue, c'est d'abord la transparence pour l'enfant concerné, puis aussi pour la fratrie, quand on découvre ça en séance. Vraiment, c'est que les parents refassent réexpliquent l'histoire. L'histoire de la fratrie ou de la sororie aux autres enfants.
Et là, oui, on est dans la psychogénéalogie ou on est dans la kinésiologie? Est-ce que vous êtes...
On est entre deux. La kinésiologie va me permettre, grâce au test neuromusculaire, d'aller vérifier la place de fratrie. Et c'est ça qui va me mettre sur la piste. Je suis pas un numéro 2, mais je suis pas un numéro 1, mais je suis un numéro 2, par exemple. Et là, je vais vérifier par le test, est-ce qu'il y a une fausse couche avant ou est-ce que c'est une grossesse gémellaire? Et c'est à la fin... Oui, de toute façon, je mélange toujours les choses. Donc, c'est à la fois de la psychogénéalogie, c'est de la kinésiologie, c'est le recul que j'ai sur les 20 ans d'expérience et de séances que j'ai vues dans ces thématiques-là.
Parce que nous sommes forcément constitués de celles et ceux qui nous ont précédés,
oui,
qui nous ont donné vie, et aussi par nos émotions, par notre biologie, notre physiologie.
Oui, bien sûr qu'on est, on est constitué de tout ça. On reçoit les bagages de nos ancêtres. Au moment de notre conception, on reçoit les bagages de nos ancêtres. Alors, on reçoit des bons bagages, c'est nos richesses. Et ça, c'est important de dire aussi. Puis, on reçoit des bagages qui ne nous concernent plus et dont on a vraiment la possibilité de se défaire de ces bagages. Mais ça, d'abord, ça veut dire reconnaître les ancêtres dans leurs difficultés, dans les stress, dans leur douleur. Et puis, se séparer de ça pour aller sur notre propre chemin. On n'est pas obligé de porter ce qui ne nous appartient pas.
D'où un travail, comme vous le dites, vous avez été appelé à faire ce travail. Et ça s'est bien passé ensuite avec vos jumeaux?
Oui, mais j'ai commencé ce travail de kinésiologie et de psychogénéalogie quand ils avaient 7-8 ans. Je dirais que c'est le travail de toute une vie, vous voyez. La naissance de mes bouquins, elle arrive alors qu'ils ont 30 ans. C'était le moment.
Ils ont lu vos livres?
Ils les ont reçus, en tout cas. Je ne peux pas vous assurer qu'ils les ont lus encore. Mais on verra. Ils liront ou ils ne liront pas. Ça, vous savez, nul n'est prophète en son pays. Voilà, ah, c'est peut-être pas forcément...
Surtout les mamans, c'est rare qu'on les écoute. Voilà. Petit message personnel. Et bien justement, parlons d'une maman et d'une maman de jumeaux. Notre collègue Zoé Decker en a deux, tout petits. Et elle nous a laissé un message pour nous raconter comment c'est.
La grossesse s'est très bien passée chez moi, l'accouchement a été fabuleux, tout s'est très bien déroulé. Heureusement, je pense souvent à ces parents aussi de jumeaux qui ont un souci à la naissance, pas l'autre, etc. Alors nous, ça s'est bien passé. Et puis avoir des jumeaux, c'est aussi anticiper la suite, c'est se demander comment ils vont grandir à deux, comment ça va se passer entre eux, est-ce qu'ils vont bien s'entendre, pas s'entendre. Être parent de jumeaux, c'est pas pouvoir faire une sortie sans se faire arrêter dans la rue. Être parent de jumeaux, c'est répondre à des questions et des phrases qui sont complètement hors de propos. C'est des vrais ou c'est des faux? Bah écoutez, ils sont en plastique, ouais, on les a choisis en plastique, pas en porcelaine. C'est vrai que c'est des phrases qui paraissent comme ça anodines, mais qui peuvent être exaspérantes à force d'être répétées. Ouh là là, oui alors, ouf, c'est beaucoup de travail ça, ouh là là, courage alors. Oui, bah écoutez, merci pour votre soutien. C'est vrai que les gens parfois sont très maladroits, et puis ils ont envie de toucher, ils ont envie de, je sais pas, il y a un côté mystique. Avec les jumeaux dans la rue, c'est voilà, les gens veulent voir. Quand ils étaient encore tout bébés dans leur petite nacelle, les gens ouvraient carrément les petites capots des nacelles pour voir. Il y a quelque chose de particulier, c'est sûr, d'être parent de jumeaux. Après, c'est aussi merveilleux et magnifique de les voir grandir. Ils ont déjà une complicité, ils ont à peine un an. ils se cherchent quand il y en a un qui est pas là, qui fait pas dodo en même temps, qui fait pas sa sieste en même temps, ils se cherchent dans le lit à côté, c'est vraiment mignon et je me réjouis de, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer leur relation entre eux, relation qu'on peut pas forcer, mais ils sont nés dans le même ventre et puis ils grandissent comme ça parallèlement et ils se développent aussi de la même manière. Ça c'était aussi peut-être une petite inquiétude qu'on avait, c'était de se dire, ah bah, je sais pas, peut-être un va marcher beaucoup plus tard que l'autre, etc. Alors là, bon, pour l'instant, en tout cas, leur développement se suit vraiment à quelques jours près. L'un fait pointe, par exemple, du doigt, oh, le petit arbre, oh, le petit oiseau. Et l'autre fait pareil un ou deux jours après. Donc, ils sont choux, on les aime à la folie, c'est extrêmement intense. Mais qu'est-ce que c'est beau de les voir grandir, ces enfants. Voilà.
Et oui. Voilà, on entend l'émerveillement, la joie, le bonheur, le plein. Enfin, j'ai l'impression que c'est tellement fou, c'est riche.
Effectivement, oui, c'est tout à fait ça. C'est fabuleux de les voir. Alors, en même temps, c'est vrai, il peut avoir ce même rythme, mais en même temps, s'il n'y a pas le même rythme, c'est OK aussi. C'est chacun son histoire. Je pense que l'histoire J'aime l'air, elle existe pour chaque couple. J'aime l'air, elle existe de façon différente, mais... Ouais. C'est peut-être rassurant aussi pour les parents de voir que ils se suivent comme ça, ils voient les mêmes choses, ils s'émerveillent devant les mêmes choses. Et le plus beau, c'est effectivement quand ils ont besoin de se retrouver physiquement, on sent que voilà, il y a une histoire, ils ont une histoire avant que nous on les connaisse. C'est vraiment la proximité in utero qui ressort.
Sur ce point-là, moi qui suis une boulimique d'enfant, qui ne suis jamais rassasiée par mes enfants, je m'étais dit, mais avoir des jumeaux, ça doit être compliqué pour les mères, pour les pères, pour les parents, parce qu'ils s'aiment tellement tous les deux, ces jumeaux, que finalement, quelle est la place qu'on peut prendre en tant que parent au milieu de ce couple-là?
Oui, c'est aussi accepter qu'ils ont un amour, qui leur suffit et faire une place, on doit se faire une place là au milieu. Alors, mon histoire, elle est particulière puisque mes jumeaux étaient quand même séparés pendant 3 mois, donc mais c'est pas toujours facile pour un parent ou même pour un frère ou une sœur qui arrive après ce couple J'aime l'air, comment faire sa place pour l'enfant d'après ou l'enfant d'avant, là au milieu.
Est-ce que vous avez tatoué les dates de naissance de vos enfants? Est-ce que vous êtes tatoué?
Eh bien non, je ne suis pas de cette époque.
Mais alors, il n'y a pas d'époque et on peut sortir de notre époque. On peut vivre toutes les époques si l'on veut. C'est l'heure de notre rendez-vous tatou.
Qu'est-ce qu'il a dans le dos?
Un tatouage.
On dirait une reproduction de la Modigliani.
Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction?
Tatou.
Oh, what a body.
Tatou dit.
Lucien a 23 ans et d'abord il me dit que c'est franchement pas le meilleur moment de sa vie. Alors ça m'étonne, je voulais lui parler tatouage mais quand même je lui pose la question, ah bon pourquoi ?
Je suis entre deux parties d'études, du coup c'est pas évident. Je fais mon service civil parce que sinon je vais en prison, hein, clairement. On va éviter.
Il est pas chouette le service civil ?
Le service civil est bien, ouais. Non, c'est vrai. Ça y a des bons côtés, juste bah, j'ai pas l'habitude de me lever à 7h du mat tous les jours. Donc je dois encore trouver le rythme et l'habitude, quoi. Et c'est pas évident.
Et je vois un tatouage qui dépasse de votre t-shirt.
Oui, je me suis fait tatouer le torse il y a un petit moment déjà, je crois en 2021.
Donc à 20 ans ?
Ouais, je voulais faire un truc sur mon torse, mais je savais pas quoi.
Pourquoi le torse ?
Je sais pas, honnêtement. Je voulais pas faire les bras. Je voulais éviter de faire le cou, la nuque. Et je sais pas. Je crois que j'avais envie, en fait. C'était une période assez compliquée dans ma vie, en plus. Du coup.
Parce que ?
Bah, mon ex s'est barré dans un autre pays. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Et bon, elle est partie. Et bon, il s'est passé beaucoup de choses entre nous qui ont fait que c'était très compliqué. Du coup, c'était aussi ma manière de me dire, ok, c'est bon, c'est parti. C'est comment expliquer.
Vous faites un geste de la main comme pour dire couper.
Ouais, exact, c'était...
C'est derrière.
Exact, pour passer à autre chose en fait, symboliser un nouveau commencement, un renouveau plutôt. Voilà, du coup vu que c'est pas... c'est du tatouage néo-tribal, donc c'est une réappropriation de l'art traditionnel du tatouage, notamment polynésien, mais dans un style moderne. Du coup, on s'inspire des trucs de l'ASF, on s'inspire de trucs qu'on kiffe, quoi.
Et, c'est assez libre.
Exactement. Et voilà, du coup, bah, c'est une grosse pièce quand même. Je pensais pas que ce serait aussi gros. En fait, je lui ai envoyé un design que j'ai dessiné au bol dans mon carnet. Et je l'ai dit, bah, tu dessines bien, moi je dessine pas très bien, est-ce que tu pourrais le refaire? Et moi je lui ai envoyé ça en m'attendant à ce que ça la saoule un peu et qu'elle. Tu vois. Mais au final, bah, ça lui a trop fait plaisir et elle l'a fait en entier, elle était très contente. Par contre, je m'attendais pas à avoir aussi mal. J'avais déjà eu des tatouages des moyennes pièces, on va dire, pas très gros, maximum 3 heures. Et là, je me suis retrouvé devant le monstre où j'avais 10 heures de session à faire. Donc, j'ai fait 90% et juste les 10%, je pouvais pas. C'était trop. Mon corps, il voulait pas. Et en fait, j'ai compris plus tard pourquoi c'est arrivé. Parce qu'en fait, il fallait pas que je l'aie tout de suite. Je l'ai fini en mai, après que j'ai quitté mon ex et que j'ai enfin pu passer à autre chose. Tu vois, c'était très symbolique. Le fait d'enfin avoir la pièce, c'était parfait. Tu vois, tout s'est aligné parfaitement. Moi, je suis très content de l'avoir. J'en ai deux ou trois. Je regrette, mais je les trouve pas terribles. Tu vois, et celui-là, il sera toujours aussi bien pour moi.
Est-ce que vous êtes senti vraiment mieux après l'avoir fait?
Alors là, quand je l'ai fini, oui. La première session, franchement, j'étais juste à bout. Bah, moi, j'habite à Genève. Je suis allé jusqu'à la Chaux-de-Fonds en train, en partant à 6h de chez moi le matin. Et j'ai fini à 21h et j'avais 3h de train pour rentrer. Donc, j'ai fait une journée de 18h avec 8h de tatouage. Là, je me sentais pas bien.
Et quand vous dites que les 10% restants, c'était impossible, votre corps disait non, qu'est-ce que vous ressentiez exactement?
On est vraiment dans le brouillard. C'est comme quand on a eu mal pendant très longtemps, par exemple quand on se casse un os et qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller aux urgences, enfin, que ça traîne, enfin, on n'arrive pas à avoir les idées claires, et puis bon, on a super mal aussi.
Est-ce que vous avez eu aussi un os cassé?
Ouais, je me suis brisé plusieurs fois les phalanges, du coup, bref.
Ça ressemble à ça, donc c'est une douleur profonde qui prend tout.
C'est ça, enfin, en plus quand on commence les tatouages, en général on fait les lignes pour ensuite faire le remplissage. Donc au début la douleur est très vive, très nette, très précise, on dirait qu'on vous coupe avec un couteau, littéralement. Et petit à petit, en fait, la douleur, elle devient plus diffuse, exact. Et puis, au final, on a juste mal partout. T'as juste mal, et c'est pas précis, tu souffres juste.
Beaucoup trop défoncé, je me pose des questions maladroites. Tout ça pour des réponses avec un vieux concentre froide. Mais j'esquive la réflexion, je roule une énorme batte. Je préfère jouer au compte ou ranger dans une boîte.
Comment ont réagi vos parents?
Bah, à l'époque, du coup, j'avais 20 ans, donc c'était pas évident. Mes parents qui étaient assez anti-tatouage quand même. Mais j'avais déjà eu 2-3 petits tatouages avant. Le fait que j'ai fait le premier, ça a quand même brisé quelque chose à ce niveau-là. Enfin, dans le sens où ils ont été beaucoup plus compréhensifs après. J'ai fait un truc très personnel aussi, je me suis fait tatouer un synthé modulaire, vu que je suis musicien. Ma mère, elle l'a vu, le premier truc qu'elle a dit, c'est « Ah, je le verrai nulle part d'autre que sur toi ».
Mais comment c'est un synthé modulaire? Il est où votre synthé? Sur le mollet?
Ouais.
Ok. Ah ouais? Oh, c'est chou!
Il a été fait par un ami à moi. Justement, je lui ai payé 10 balles. Tu vois? Mais c'était. Là, à ce moment-là, je voulais un tatouage. C'était pas vraiment pour symboliser quelque chose. C'était. C'était pour symboliser le. Je me réapproprie mon corps. Enfin, arrêter de me dire quoi faire, en fait.
Puis vraiment, un synthé modulaire, ce qui veut dire, c'est non seulement se manifester comme étant libre de faire ce qu'on veut sur son corps, mais en plus de montrer qu'on veut faire de la musique.
C'est ça. Pour moi, c'est tellement évident de faire de la musique, j'y pense même plus. Pour moi, j'ai juste un synthé sur le mollet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça représentait beaucoup plus. Mais du coup, mes parents ont bien réagi. Ma mère l'a trouvé vraiment beau. Et bah, ça l'a convaincue à en faire un elle-même. Du coup, j'ai réussi. Ouais, c'était bien.
Et pour découvrir son tatouage qui l'a tant fait souffrir, Lucien est en photo sur mon compte Instagram Tatou Tatou dit. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux ou sinon à drôledépoque@rts.ch. J'aime beaucoup cette idée du symbolique. Finalement, Mireille Durick-Jacquet, le symbolique est absolument partout.
Oui.
Voilà, il est partout. Là, Lucien nous dit très clairement, j'ai pas pu finir ce tatouage, mais ça avait un sens. C'était symbolique parce qu'il fallait que je quitte pour de vrai ma copine pour pouvoir le terminer. Le symbolique est très présent dans vos cabinets de kinésiologue.
Il est en tout cas très présent
chez vous.
Pour moi, alors chez les autres, je sais pas. Chacun, j'ai envie de dire, chacun sa sensibilité, mais moi, ça répond à ma sensibilité. Oui, j'aime bien regarder le sens derrière les choses, faire des liens, comme ça, tisser des liens. C'est un peu, c'est ce qui m'anime, quoi.
Vous êtes croyante?
Oui, je suis croyante. Je peux dire que ça prend différentes formes, mais oui, je suis croyante en la vie, en la quel que soit le nom que je donnerais, mais oui, je crois. Oui.
Mais vous l'avez expérimenté, vous l'avez éprouvé aussi, la nécessité de garder foi.
Oui.
Je pense à cette épreuve avec vos enfants à la naissance, cet enfant en soins intensifs, l'autre à la maison, il faut s'accrocher.
Ça chahute bien et ça, effectivement, ça nous recale les pieds sur terre avec une bonne connexion, on va dire, vers le ciel. Et je me souviens que mon mari, quand Gilles était hospitalisé la première nuit, il disait, il a eu la force de lui dire, mais Gilles, si tu dois t'en aller, c'est OK. Et moi, je pouvais pas, quoi. C'était juste, je m'accrochais. Voilà, chacun sa, la résonance à.
Et en couple, et justement dans ce couple où lui est capable de dire ça, et on imagine le cri d'horreur et de terreur que ça devait provoquer en vous, comment le couple fait face ensemble avec des aptitudes si différentes?
Ben après, ça s'est bien passé, on a été vraiment soutenus, accompagnés par une équipe au CHUV, aux soins intensifs, juste magnifique. Pardon ?
En néonatalité, là-haut ?
En soins intensifs.
D'accord.
Soins intensifs de pédiatrie. Voilà, c'est... On avance, c'est tout. On a avancé et on a fait confiance et on a eu raison d'avoir confiance.
Est-ce qu'on devient le jumeau de son conjoint, d'une certaine manière, dans ce genre d'épreuve ? Avec la complémentarité que ça suppose, mais aussi le lien.
On pourrait dire ça comme ça qu'on devient. En tout cas, on va chercher à créer un couple qui avance ensemble, un couple parental qui. En tout cas, nous, ça nous a mis dans un couple parental qui avançait ensemble. Et nos valeurs ont toujours été les mêmes. Et ça a été notre force. Voilà.
Une unité, mais chacun un pilier et de l'espace entre les deux piliers.
Oui.
Comment vous avez fait pour permettre à vos enfants, vos deux garçons, de prendre chacun leur place?
Je ne sais pas si j'ai réussi ou comment j'ai fait ça. C'est vrai que c'est quand même délicat, l'éducation de jumeaux. Il faut être attentif à l'un à l'autre et surtout quand il y en a un qui a été, on a vraiment beaucoup mis l'attention sur Gilles qui a été malade. Il faut essayer de trouver la contrepartie chez Florian qui est quand même l'enfant qui est bien portant mais qui a aussi besoin de beaucoup d'attention. Et la vie est bien faite parce qu'à différents moments, ça nous rappelle que peut-être qu'on n'a pas trouvé le bon équilibre. Donc, il faut juste être attentif et faire de son mieux. Et ne pas culpabiliser quand on n'a pas réussi à faire aussi bien qu'on le voulait.
Et par rapport au monde extérieur, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage de Zoé, les gens veulent voir les jumeaux, il y a quelque chose de presque mystique dans la gémellité, quelque chose de hors norme qui du coup intrigue. Elle parle des remarques exaspérantes, du regard de la société toujours sur ces jumeaux, comme s'ils étaient quand même un peu bizarres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est thématisé avec les jumeaux ou que vous encouragez les familles à thématiser ou le fait que on porte sur eux un regard différent que celui qu'on porte sur d'autres membres d'une fratrie?
Ça dépend aussi s'il s'agit de vrais jumeaux ou si c'est un couple de faux jumeaux, parce que ça va être un peu une problématique différente quand c'est des faux jumeaux, puisqu'ils seront déjà physiquement différenciés. Mais c'est vrai que les vrais jumeaux, en tout cas les miens, ils s'amusent quand, je sais pas, Gilles rencontre quelqu'un qui lui dit salut, il dit je crois que tu connais mon frère, mais c'est pas moi. Voilà, ils s'en amusent, mais ils n'ont jamais joué avec ça, en tout cas pas que je le sache, ils n'ont pas joué à changer de place en classe et tout ça. C'est toujours plus facile de reconnaître des vrais jumeaux quand ils sont ensemble que quand ils sont séparés. Moi-même, j'avais une amie qui avait des vrais jumeaux, des jumeaux, et si je les voyais séparément, je ne savais pas qui était qui.
J'avais un très bon ami, Mustapha Hussein Genovis, je dis son nom parce qu'il n'est plus là, et qui était absolument en mal à l'aise à l'école, qui détestait à l'école, et il me disait tout le temps, sur les bancs du fond de la classe, si moi un jour j'ai des jumeaux, j'en fais reconnaître qu'un seul, comme ça ils y vont à tour de rôle. À l'école. Merci beaucoup, Mireille Durig-Jacquet, d'avoir été avec nous pour nous parler de votre expérience de mère de jumeaux, mais aussi de kinésiologue, en travaillant en lien avec la psychogénéalogie, le symbole, la symbolique et tout ce qui relie les uns et les autres dans les familles pour essayer d'évacuer les problèmes qu'on peut rencontrer dans nos vies au quotidien. Merci beaucoup, Pascaline Sordet. On redit les titres des livres chez Statkin.
Oui, qui sont sortis donc en même temps. Donc, ce sont des livres jumeaux. Je vous donne les titres à la suite. Le premier, Gémellité perdue et gémellité symbolique. Et le second, Au cœur de la gémellité incarnée.
Histoire vivante. Histoire vivante. Anaïs Kien.
Depuis quelques années, l'Arctique est partout. Dans les romans policiers, dans les séries, dans les rubriques de géopolitique. Parce que la fonte de la banquise inquiète, parce que les appétits commerciaux et stratégiques s'aiguisent, parce que la région est devenue un décor d'intrigues de fiction qui font un carton en librairie. Alors dans cette nouvelle série, on explore son histoire pour comprendre comment l'Arctique est devenue cette immense surface de projection de toutes les angoisses de notre temps. Épisode 3. Les peuples de l'Arctique. L'Arctique, c'est cette partie de notre planète qui se trouve au nord d'une ligne imaginaire à 66 degrés de latitude nord. C'est l'océan Arctique qui en occupe presque toute la surface. Alors que le pôle sud, c'est un continent de terre, au pôle nord, on trouve des sols de glace. Tous les États qui bordent cette mer sont considérés comme des pays arctiques. Il y a les États-Unis avec l'Alaska, le Danemark avec le Groenland, et tout à fait au nord, les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, la Finlande, et enfin la Russie. Mais lorsqu'on parle des populations arctiques, c'est plus compliqué. Il y a les frontières politiques et les frontières culturelles qui dépassent parfois ce cercle polaire.
Alors, actuellement, on pense que depuis assez longtemps, la population de l'Arctique dans l'ensemble s'est stabilisée autour de 4 millions.
Yvon Tchonka est ethnologue. Il a enseigné à l'université de Nuuk, au Groenland.
Sur une surface terrestre qui est en fait énorme, hein, l'habitat est très dispersé, malgré que ce soit urbanisé, qu'il y a un certain nombre de villes où les gens se concentrent. Et parmi ces 4 millions, les autochtones, ça dépend comment on définit qui est autochtone. Surtout en Russie, où on a une définition soviétique encore entre ce qu'ils appellent des petits peuples du Grand Nord. Et la définition, c'est moins de 50 000. Alors qu'en Russie, on a aussi des peuples qui vivent dans le nord, par exemple les Yakouts et les Komis, qui eux sont des peuples d'ordre de grandeur 400 000 personnes. Donc dans l'ensemble, la population autochtone de l'Arctique, c'est entre 1,5 million et 1 million.
Il y a les autochtones, et au fil des siècles, l'intérêt croissant des empires pour ces territoires qui intriguent et qui recèlent de richesses qu'on ne trouve pas ailleurs.
Pour l'ensemble de l'Arctique, la première impulsion, c'était les fourrures, qu'on utilisait essentiellement pour se vêtir, c'était un luxe. Ça a été le cas en Russie. Les Russes ont poussé vers l'Est à partir de la Russie historique d'Europe, à partir du XVIe siècle. 17e, ils se sont étendus à travers tout l'Arctique qu'ils occupent actuellement. Et c'était à chaque fois aller un peu plus loin, encourager les autochtones à chasser des animaux à fourrure, troquer les fourrures contre des biens qui venaient de Russie, des biens manufacturés. À un certain moment, la population des animaux à fourrure était épuisée et on continuait toujours plus loin vers l'est, jusqu'à ce qu'ils arrivent au XVIIIe siècle, tout à fait au bout de l'Eurasie et qui débordent sur l'Alaska. Et même chose en Alaska, ils ont occupé l'Alaska à partir de 1732 jusqu'à ce qu'ils revendent l'Alaska aux États-Unis en 1867, ce dont ils se mordent les doigts évidemment aujourd'hui. Et dans l'autre direction, ben c'est pareil, hein, au Groenland on y est allé, les Vikings y sont allés, eux c'était pour exploiter les terres essentiellement et vendre un peu d'ivoire de morse par exemple ou d'ivoire de narval. Mais ils vivaient une vie agricole qui leur a pas permis de survivre. Ils se sont éteints au Groenland vers le 15e siècle et on n'a toujours pas vraiment la réponse exacte à la question de savoir pourquoi ils ont disparu. Ensuite, la colonisation a repris à partir de 1721. Les Danois ou Norvégiens, parce que c'était un seul pays à l'époque, y sont allés, des missionnaires qui pensaient ou qui espéraient retrouver les descendants des Vikings et les convaincre de passer à la réforme. Il n'y avait plus de Vikings, mais il y avait des Inuits et ils ont converti les Inuits relativement rapidement et ils sont implantés. C'est ça l'histoire du fait que le Groenland fait partie aujourd'hui encore du Danemark. Plus loin encore vers l'ouest, cette fois en Amérique du Nord, ça a été aussi la fourrure. Hein. Les Français et les Anglais sont arrivés, ont été en concurrence et même topo qu'en Russie en fait, où on chassait les animaux à fourrure et en mer ouverte, on chassait des animaux comme les baleines. Les baleines, c'était pour les fanons et la graisse qui étaient des matériaux qui avaient une très grande valeur à l'époque en Europe. Et ils sont arrivés dans l'Arctique, mais plus tard, beaucoup plus tard qu'ailleurs, vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle d'ailleurs. Une des raisons, c'est que les fourrures de l'Arctique n'ont pas été à la mode avant le début du 20e siècle. La fourrure principale de l'Arctique canadien, c'est le renard blanc. Éventuellement aussi un peu de phoque, mais le phoque n'a jamais été une fourrure aussi prisée que le renard.
Yvon Tchonka a commencé une recherche sur une pratique courante de la part des pays d'Eurasie implantés en Arctique. Les déplacements de population au gré des besoins commerciaux et politiques des États souverains.
La recherche des fourrures conduisait à ce que les territoires soient vidés de leurs animaux à fourrure et on allait plus loin. Les autochtones étaient déplacés, dans certains cas c'était même de force, ça a été le cas, c'est bien documenté dans les îles Aléoutiennes qui forment une longue chaîne d'îles entre la Russie, le Kamtchatka et l'Alaska, où les autochtones étaient employés à chasser les loutres de mer, dont la fourrure a une grande valeur, et les autochtones les chassaient en kayak, ils maîtrisaient très bien ce type de chasse, alors que les Russes pas du tout. Et on les a forcés à se déplacer au fur et à mesure que on trouvait plus de loutres dans les environs, par exemple. Une autre raison, ça a été les épidémies que les Européens ont apportées, hein, comme on sait qu'ils en ont apporté dans les Amériques. Dans l'Arctique, c'est arrivé beaucoup plus tard. D'ailleurs, c'est arrivé au Canada juste dans les années 1950. Là, c'était essentiellement de la tuberculose et de la poliomyélite. Beaucoup de souffrance pour ces autochtones, mais c'était pas absolument systématique et l'impulsion venait d'employés de traite des fourrures qui étaient des monopoles d'État. Du côté russe, c'était les tsars qui organisaient l'exploitation et au Canada, c'était la compagnie de la baie d'Hudson qui était partiellement propriété de la couronne d'Angleterre.
Jusqu'au XIXe siècle, voire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la présence des empires est aléatoire, sans grandes ambitions, en dehors de ses exploitations commerciales. Le XXe siècle bouscule l'Arctique comme jamais.
Par exemple, au Canada, on a eu une politique de laisser-faire. Les autochtones étaient en fait aux mains de cette compagnie de la baie d'Hudson, qui était très puissante, mais l'État n'intervenait pas. Au Groenland, par contre, ça a été assez différent. Le gouvernement danois s'intéressait à moderniser le pays, à alphabétiser la population. Ça a été assez différent. Et il y avait aussi tout le travail des missions chrétiennes, luthériennes au Groenland, qui était beaucoup plus intense qu'au Canada. En Russie, c'était aussi plutôt une politique de laisser-faire, sauf que les tsars, eux, exigeaient un impôt des autochtones. Pour quel service en retour? On se l'est toujours demandé, mais bref, le yassak, cet impôt, était imposé à tous les autochtones qui ont été soumis. Mais les politiques des États sont intensifiées au XXe siècle et en particulier à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le bouleversement de la guerre qui fait par exemple que les Japonais sont allés attaquer les Américains dans les îles Aléoutiennes et menacer l'Alaska, ce qui a passablement affecté les autochtones. Et dans tout ça, il y avait aussi des questions de souveraineté des pays qui dont les frontières n'étaient pas encore absolument fixées. Et donc, dans certaines régions, on a déplacé des populations autochtones. Cette fois-ci, c'est l'État lui-même, le gouvernement central, qui s'est interposé et qui a forcé des autochtones à se déplacer. Et l'idée, c'était, ces autochtones sont nos citoyens, même si c'était des citoyens de seconde ou de troisième zone, on va les déplacer vers des régions qui peuvent être revendiquées par un autre pays et on va hisser le drapeau. To raise the flag, c'était ça l'idée. Ça s'est fait au XXe siècle en plusieurs régions, au Groenland, au Canada, en Russie aussi. En Russie, c'est l'île Wrangel qui se trouve tout au nord de la Tchoukotka, qui est toute proche de l'Alaska, et les Russes avaient peur que les Américains ne revendiquent cette île. Alors on a envoyé des autochtones locaux pour dire « voilà, c'est la Russie ».
Histoire vivante.
Du côté de la Russie, le XXe siècle, c'est aussi un changement radical de régime politique. Avec la chute de l'Empire et de la dynastie des Tsars, la révolution bolchévique de 1917 et la création de l'Union soviétique. Un nouveau modèle politique.
La politique soviétique a passablement évolué sous la période soviétique. Au début, du point de vue des autochtones, la politique était assez favorable et amicale, idéaliste peut-être même du point de vue des soviets, mais très rapidement, ce qui a pris le dessus, c'était la volonté d'exploiter les ressources naturelles. Au détriment des autochtones, partiellement, mais aussi, enfin, tout le monde a entendu parler du goulag. On envoyait des gens de Russie, donc des Russes ethniques européens, en tant que prisonniers pour exploiter les richesses du Nord. Et un des problèmes, bon, ça a été d'une part la marginalisation démographique des autochtones, la prise de leur territoire et l'exploitation de leur territoire, non seulement pour exploiter les ressources, par exemple l'or, de la colima, c'est une exploitation qui pollue passablement les eaux avec du mercure, donc qui péjore la chasse et la pêche en rivière, par exemple. Et ces gens qui vivaient là, il fallait bien les nourrir, donc comme on ne peut pas pratiquer l'agriculture, il y a eu une concurrence avec les autochtones pour tout ce qui était accès au gibier, à la chasse et à la pêche. Et on sait que l'Arctique russe est très froid parce que c'est une zone continentale et les mines se sont développées. Par exemple, à Kolyma, c'est à la limite de l'Arctique, mais ça s'est étendu à partir de là vers le nord, partout où on a pu exploiter des minéraux.
Now, to show you part of the big picture, here is Sergeant James Mansfield.
Today, the big picture takes you behind the scenes of the greatest feat of military construction since the end of World War II. A race against time and weather to build a giant airbase in the Arctic.
Les États-Unis s'intéressent de plus près aux avantages stratégiques de l'Arctique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, pour faire face à l'Union soviétique au cours de la guerre froide, avec la base aérienne de Thule au Groenland et plusieurs installations tactiques comme l'opération Blue Jay dans les années 50.
This is a story of Operation Blue Jay.
C'est l'histoire de l'opération Blue Jay.
Greenland,
le Groenland,
mighty island in the far north,
île imposante dans l'extrême nord,
mountains and everlasting cold,
une terre de montagnes escarpées et de froid éternel, fermée au reste du monde par la mer gelée. Derrière ces remparts glacés se cache l'un des plus grands secrets militaires de notre époque, l'opération Blue Jay. Ici, où les températures tombent à 50 en dessous de zéro et où les vents atteignent 250 km à l'heure, où un soleil éclatant est brusquement remplacé par un brouillard dense, l'ingéniosité et l'audace américaine ont permis de construire un nouvel avant-poste pour la défense de notre pays, une base aérienne géante au sommet du monde.
L'Arctique nord-américain voulait se protéger des éventuels missiles balistiques russes, hein, puisqu'ils avaient déjà la bombe atomique, et que pour le faire, techniquement, il fallait construire une ligne de radar tout à fait au nord de l'Arctique nord-américain et du Groenland, qui est la voie la plus courte pour un missile balistique pour passer de la Russie aux zones habitées de l'Amérique du Nord. Au Groenland, on a construit un super radar, ça c'est les Américains. Ils ont demandé au gouvernement danois la permission de le faire, les Danois ont accepté, les Groenlandais n'ont pas été consultés. Donc ils ont construit cette base tout à fait au nord du Groenland et c'était une région habitée par un groupe de Groenlandais, d'Inuits, chasseurs. Et on les a priés de se déplacer avec la bénédiction du gouvernement danois qui était pourtant censé les protéger. La base aurait probablement pu être construite ailleurs. Il fallait simplement un grand terrain plat pour laisser atterrir les bombardiers américains. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette région? Je pense que les Danois n'ont pas osé résister. Et on a simplement déplacé les Groenlandais Manu Militari en avion vers le nord, à peu près 200 km plus au nord, vers des terrains moins giboyeux. Et ça a été dramatique, comme souvent dans ces cas de déplacement forcé. On leur a promis des maisons en dur, mais le premier hiver, les maisons en dur n'étaient pas là. Ils ont passé l'hiver sous tente. Dans un hiver qui est à cette latitude-là, il fait nuit pendant deux mois entiers et il fait des températures effroyables. Donc les gens ont été passablement malmenés. La base américaine est toujours là, aujourd'hui encore. Et il y a eu un accident, je crois que c'était en 1968, où les Américains faisait survoler l'Arctique en permanence par des bombardiers qui étaient équipés de missiles nucléaires. Ils volaient 24 heures sur 24 et ils ont dû faire quelques atterrissages d'urgence à Thule. L'un d'eux s'est écrasé avec son chargement de bombes atomiques. On a retrouvé l'avion, mais quelques bombes n'ont jamais été retrouvées, donc elles sont toujours là et c'est un risque de pollution qui va probablement durer encore longtemps.
Quand l'avion s'est écrasé, il a fait fondre la glace. Ensuite, le tout a gelé à nouveau. Alors, il a fallu enlever un mètre de glace pour décontaminer le site sur plusieurs kilomètres de long.
Ces implantations militaires ne sont pas les seuls motifs de déplacement de population. Du côté du Danemark colonial, la politique d'extension de l'État-providence entraîne des résultats ravageurs pour la population du Groenland.
Cet idéal d'État-providence, c'est quelque chose du milieu du XXe siècle essentiellement. Et ça s'accompagne d'une politique qui est tout à fait paternaliste. L'idée, c'est on veut faire des actions qui sont en faveur de la population, mais la population est trop peu cultiver pour comprendre ce qu'on veut leur faire faire. Et donc, on le fait de toute façon sans les consulter. Et ça s'accompagne de bonnes actions. On introduit un système de formation, on introduit des soins, on construit des maisons en dur, des infrastructures. Mais tout ça sans consulter la population. Et le résultat, c'est que les gens ont l'impression qu'on fait des choses pour eux sans qu'eux aient quoi que ce soit à y voir ou à y dire, et souvent dans des manières de faire qui ne sont pas compatibles avec la culture locale, ne serait-ce que d'habiter dans des blocs d'appartements avec des voisins qui sont pas du tout des gens de la même région, qui parlent pas forcément le même dialecte. La forme des appartements aussi correspond pas du tout aux ménages tels qu'ils sont conçus par les autochtones. Donc ça a créé en fait plus de problèmes que ça en a résolu. Et on sait qu'actuellement dans l'Arctique il y a passablement de problèmes sociaux. Parmi les populations autochtones, alcoolisme, violence, suicide, beaucoup de suicides encore aujourd'hui. Ça se normalise un peu, mais ça prendra long. Et c'est certainement l'héritage de cette période où on a donné l'impression aux gens qu'ils n'avaient pas de contrôle sur leur destinée.
On a vu que les démocraties occidentales n'étaient pas tendres avec les autochtones de l'Arctique. Mais du côté de la sphère d'influence russe, ça n'est pas plus satisfaisant. Yvon Tchonka, ethnologue.
L'État socialiste, tout de même, sur le papier, c'était un État qui était censé être au service de la population. Et il y a eu des politiques en faveur des autochtones. Vraiment, étonnamment, malgré la différence de régime politique et idéologique, la manière dont on a traité les autochtones est étonnamment similaire en Union soviétique et dans les autres pays, les pays de l'Ouest. Le paternalisme, l'État-providence qui offre des maisons, des soins de santé, la formation, etc. Et partout, on s'enthousiasmait, en tout cas au Sud, hein, pas chez les autochtones, de tout ce qu'on faisait pour ces gens qui nous coûtent tellement cher. Et les résultats ont été à peu près les mêmes partout.
Jusqu'ici, on s'intéresse surtout à ce que les grandes puissances font aux populations arctiques. Mais certaines ont trouvé le moyen de résister à ces changements forcés, au moins pour un temps.
C'est arrivé partout dans l'Arctique, en Russie, d'ailleurs aujourd'hui encore en Russie, dans la péninsule de Yamal habitent les Nénets, qui sont des éleveurs de rennes et qui, par miracle, pendant toute la période soviétique et jusqu'à aujourd'hui, ont réussi à garder leur mode de vie nomade, éleveurs de rennes, dans leur tente. Ils se déplacent à l'année. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont en plein dans les champs gazifères et pétrolifères et que ça crée une pollution énorme et que ça coupe les voies de migration des rennes, donc des gens. Ça a été le cas au Canada aussi, où des gens ont refusé, où ont été les derniers résistants qui ont vécu dans des camps et qui n'ont pas voulu se déplacer dans des villages. Ça a été le cas aussi au Groenland, donc partout, des résistances. Mais essentiellement, à part cet exemple fameux de Yamal, les Nénets, les gens ont tous fini par se retrouver en ville. Une des raisons, c'est que les parents voulaient tout de même que leurs enfants soient scolarisés et qu'ils aient une chance dans la vie de faire éventuellement autre chose que leurs parents, parce que cette vie, loin des centres, c'était une vie de pauvreté par rapport aux autres. Et puis il y avait évidemment aussi l'appât de tout ce qu'on a en ville et qu'on n'a pas loin des centres, hein, y compris pour les jeunes, la télévision, les discos, etc.
Dernier et récent exemple en date, le Danois Hans Egede, surnommé l'apôtre du Groenland. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Hans Egede, c'est un missionnaire danois du XVIIIe siècle, dont l'histoire retient qu'il a imposé le christianisme et le mode de vie occidental au Groenland. Alors deux statues de Egede ont été vandalisées en quelques jours, l'une à Nuuk, capitale groenlandaise, ville fondée par Egede, l'autre à Copenhague, capitale d'un Danemark dont le Groenland dépend encore politiquement aujourd'hui, des statues barbouillées de rouge dont le socle affiche désormais un slogan qu'il n'est pas vraiment besoin de traduire, « Decolonize ».
Avec la fin de la guerre froide, l'éventualité d'une confrontation militaire entre les États-Unis et la Russie disparaît. L'Arctique intéresse moins. Les grandes puissances du globe sont toujours là, mais avec une attention beaucoup moins ardente.
Pendant longtemps, enfin, dans les années 1970 par exemple, où les choses se détendaient avant même la fin totale de la guerre froide, les grandes puissances se sont désintéressées et on a eu l'idée, la fiction que l'Arctique était une zone de paix et le resterait à long terme. Donc on a démilitarisé. Et d'autre part, il a commencé à y avoir une forte résistance des Inuits à ce qu'on leur a fait subir. Les Inuits sont aussi des négociateurs hors pair. Ils ont une manière de négocier très sympathique, mais très insistante. Et ils ont demandé à avoir des mesures d'autonomie. Ça a été le cas un peu partout dans l'Arctique. En Sibérie, par contre, pas du tout ou très peu. Et l'autre aspect, c'est la tendance à la décolonisation dans les pays de l'Ouest, l'Afrique, etc. Mais l'Arctique aussi. Et on a offert au territoire arctique des autonomies. Ça a commencé par le Danemark qui a fait passer le Groenland de protectorat à province du royaume, 1953. Les États-Unis ont suivi. L'Alaska était un territoire et légalement c'est devenu un État, 49e si je me souviens bien, avec un statut donc d'autonomie plus important. Canada, pareil, il y a eu plusieurs étapes avec la création de territoires plus ou moins autonomes à un niveau d'autonomie beaucoup moindre que celle du Groenland, mais tout de même, alors, des territoires du Nord-Ouest, on a créé deux territoires dont l'un est ce qu'on appelle aujourd'hui le Nunavut, qui fait tout de même 2 millions de kilomètres carrés et dans lequel les Inuits ont la majorité démographique. C'est un gouvernement public, mais étant donné qu'ils sont la majorité, ils ont une certaine influence sur les décisions politiques qui les concernent. Le Groenland, ça a continué. En 1979, ils ont obtenu ce qu'on appelle le Home Rule, c'est-à-dire une autonomie renforcée. Toujours dans le cadre du royaume du Danemark, mais avec, ils ont pu rapatrier un certain nombre de domaines qu'ils administrent eux-mêmes avec de l'argent qui vient du Danemark et qui leur permet de fonctionner sans que le Danemark leur impose la manière de dépenser l'argent. Au Groenland toujours, ils ont voté pour une autonomie renforcée en 1999 et une grande partie de la population en fait souhaite avoir une indépendance totale, c'est-à-dire une coupure par rapport au Danemark. Et c'est un aspect qui est encore très fortement disputé aujourd'hui. Le risque, ce serait de perdre l'accès à la subvention du Danemark, qui est très importante. Et l'alternative, ce serait de développer leur propre économie. Développer leur propre économie, ça voudrait dire ouvrir des mines, parce qu'ils ont des ressources en quantité. D'ailleurs, on va probablement ces prochaines années chercher à les forcer à ouvrir des mines pour, par exemple, des terres rares, pour casser le monopole chinois sur les terres rares et le lithium, etc. Tout ce dont on a besoin ici pour la transition énergétique, les batteries de voitures, etc. Et le danger dans ce cas-là, c'est que pour ouvrir ces mines, il va falloir faire venir de la main-d'œuvre étrangère, parce qu'il n'y en a pas assez au Groenland, et ça va être l'occasion d'un mixage ethnique et d'une atteinte à l'intégrité culturelle des Groenlandais, ce dont ils ne veulent pas pour de bonnes raisons. Donc les Groenlandais hésitent, ils ont refusé il y a quelques années l'ouverture d'une mine d'uranium. Combien de temps est-ce qu'ils vont résister? Les Chinois aussi ont souhaité ouvrir une mine de bauxite au Groenland. Ils l'ont fait déjà d'ailleurs en Islande. Et l'idée, c'est qu'on utilise les barrages hydroélectriques pour faire de l'électricité bon marché. C'est ce que les Islandais ont fait. On fait venir de la bauxite, par exemple, d'Australie. Ça coûte pas trop cher par navire. On le transforme en aluminium en Islande ou au Groenland, et puis ensuite on n'est qu'à quelques kilomètres de l'Europe ou des États-Unis qui sont les marchés principaux. Donc c'est un peu ça le problème du Groenland aujourd'hui, comment conserver leur autonomie dans une situation qui est géopolitiquement difficile, économiquement aussi. Je pense que tout le monde se souvient qu'il y a quelques années, quand il était président, Donald Trump avait proposé d'acheter le Groenland aux Danois. les Danois avaient répondu relativement peu poliment à Trump que c'était exclu, les Groenlandais aussi, mais ça montre à quel point il y a un appétit des grandes puissances pour ce genre de région.
Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. And strategically for the United States, it would be nice.
Dans le prochain épisode, on plonge dans l'histoire géopolitique de l'Arctique. Histoire vivante, c'est Anaïs Quien avec Daniel Zacker à la préparation et Rodolphe Beauchaud à la réalisation. La suite de cette série, c'est demain à 13h30 sur la première ou tout de suite sur l'application Play RTS. Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 3h.